Mon cœur est tout à toi. C'est le titre de ma prédication. Nous venons de chanter un bel hymne qui a été composé par le chanteur canadien Luc Dumont. Et les paroles, je ne sais pas si elles viennent de votre cœur quand vous les chantez, mais je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Des très belles paroles qui montrent un engagement extrêmement fort. En réalité, c'est le témoignage que tout chrétien devrait pouvoir donner, parce que ces paroles correspondent à ce que doit être toute vie chrétienne, une vie complètement livrée à ce que Dieu veut pour nous. Et pourtant, je dois admettre que je garde souvent beaucoup de choses pour moi. J'aime bien avoir la maîtrise. Et puis, mes priorités, je dois reconnaître que c'est pas toujours les priorités de Dieu. Comment dire? Tout finalement, c'est beaucoup. Cet engagement total, est-ce qu'il est possible? On voit dans toute la Bible que plusieurs personnes l'ont spontanément énoncé. Dans les évangiles, par exemple, plusieurs apôtres ont proclamé avec une détermination sans faille qu'ils voulaient se donner pour Jésus. Par exemple, Thomas. Or, Thomas, c'est un apôtre que l'on réduit souvent seulement au doute. C'est vrai que souvent, les gens qui veulent exprimer le doute, même chez les gens qui ne connaissent pas Dieu, même chez les non-chrétiens, ils disent « Oh, moi, je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Tout ça parce que il n'a pas cru les autres apôtres quand ils lui ont dit qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Pourtant, ces mêmes apôtres, ils n'avaient pas cru les femmes quand elles leur avaient dit. Pourtant, Thomas n'était pas un apôtre de deuxième choix. Et il l'a exprimé par un engagement qu'on peut considérer comme audacieux. On pourrait même dire un engagement sans limite pour Jésus. L'évangile de Jean nous parle de cet engagement que Thomas a exprimé lorsque Jésus a été informé de la mort de Lazare. On lit dans Jean 11, versets 14 à 16, « Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort, je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec notre maître. » Alors je précise que toutes les lectures que je vais faire sont prises dans la Bible en français courant. Cette réflexion de Thomas, elle montre deux choses. D'une part, bien sûr, sa détermination qu'il avait à suivre Jésus. Mais aussi, d'autre part, le danger auquel Jésus et ses disciples étaient confrontés journellement. Nous imaginons toujours Jésus au milieu d'une foule tout acquise à sa cause, une foule qu'il admire sans restriction. Ben forcément, les paralysés marchent, les aveugles voient, les possédés sont libérés. Il ne peut pas y avoir d'obstacle. Les gens doivent être complètement conquis. Pourtant, en Judée, l'opposition des prêtres et des scribes était la règle. Et simplement reconnaître Jésus comme le Messie, c'était dangereux. Et cela est très clairement écrit dans les évangiles. Dans Jean, au chapitre 9, nous lisons que les parents d'un aveugle né n'osent pas avouer devant les pharisiens que c'est Jésus qui a guéri leur fils. Nous lisons dans Jean 9, versets 18 à 20, « Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents pour les interroger et ils leur demandèrent, « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu'il est né aveugle ? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie maintenant. Nous ne savons pas non plus qui a guéri ses yeux. Interrogez-le, il a de l'âge, il a l'âge de répondre lui-même. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent « il a de l'âge, interrogez-le ». Imaginez un instant ses parents dont le fils est né aveugle. Jésus l'a guéri et il n'ose même pas en parler. Ils auraient même pu organiser une fête, inviter les voisins, présenter Jésus, l'auteur du miracle. Au lieu de cela, ils feignent de tout ignorer. Notre fils est guéri. Oui, c'est notre fils. Oui, il est né aveugle. Mais comment c'est arrivé? Demandez-lui. Nous, on n'est pas tellement concernés. Était-ce des parents indignes? Je ne pense pas. Cette attitude montre surtout qu'être du côté de Jésus en Judée, c'était dangereux. Et dans les réflexions de Thomas, on voit qu'il pense même que les persécutions vont s'intensifier et que les Juifs ne vont pas se contenter d'ironiser sur Jésus ou de le critiquer. Ils pensent qu'il existe un réel risque pour leur vie. Et il a d'ailleurs parfaitement raison, parce que Jésus ne reviendra plus en Galilée après ce voyage en Judée. C'est son dernier voyage en Judée. Quelques jours plus tard, il va être arrêté et même crucifié. Pourtant, malgré cette prémonition, Thomas n'hésite pas à être celui qui pousse les autres disciples à aller en Judée. Il est prêt à tout donner, même sa vie. Si on voit Jacques et Jean, les deux frères, au caractère bien trempé, vous savez, ils étaient surnommés les fils du tonnerre, parce qu'ils avaient proposé à Jésus de foudroyer un village parce qu'ils n'avaient pas voulu l'accueillir. Bien, eux aussi étaient très sûrs d'eux quand ils ont demandé à Jésus une place à sa droite et à sa gauche dans le royaume des cieux. On lit dans Marc 10, versets 35 à 40, « Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi l'un à droite et l'autre à gauche. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons !» Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Audacieux, n'est-ce pas ? « Nous le pouvons !» La coupe de douleur ? Le baptême de souffrance, pas de problème. Voilà des gens prêts à tout. Quant à Pierre, nous savons que c'était un fonceur, toujours prêt à s'engager. Et tous les autres disciples n'étaient pas en reste. C'est ce que nous lisons dans Matthieu, chapitre 26, versets 31 à 35. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. » Car on lit dans les Écritures, « Je tuerai le berger et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. » Mais, ajouta Jésus, « Quand je serai là de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. » Pierre lui dit, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Quelle assurance, là aussi, dans les paroles de Pierre. Et tous les autres sont d'accord. Unanimité pour contredire Jésus. Jésus leur dit, « Vous allez tous m'abandonner, Ah non, Jésus, tu nous connais mal. Pas nous.
Pourtant, quelques heures plus tard, Pierre va renier Jésus, et à trois reprises, et devant des gens du peuple, qui finalement n'avaient pas trop le pouvoir de lui nuire. Les autres disciples seront-ils plus courageux? Nous voyons ce qu'il en est lors de l'arrestation de Jésus. Nous lisons dans Matthieu 26, 55-56. Puis Jésus dit à la foule, « Deviez-vous venir armé d'épées et de bâtons pour me prendre comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. » Là aussi, unanimité, pas pour résister, pour fuir. Finalement, on voit que malgré toute leur bonne volonté, les disciples avaient suivi Jésus qui guérissait, qui relevait, qui clouait le bec aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens. Mais pas un Jésus qui se laisse menotter, pas un Jésus qui se laisse fouetter sans rien dire. Ils voulaient être dans le camp des conquérants, mais pas dans celui des martyrs. Jésus avait averti ses disciples un peu plus tôt dans le jardin de Gethsémané. C'est ce qu'on lit dans Matthieu 26, le verset 41. « Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » L'apôtre Paul, lui aussi, a parlé de cette faiblesse de l'homme. Il écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 21 à 24, « Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle que j'approuve, contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ? La question que nous pouvons nous poser, sommes-nous plus persévérants, plus courageux, plus dévoués que Thomas, Jacques, Jean, Pierre, Paul et les autres? Pouvons-nous oser chanter « Prends ma vie, je te donne tout » Et d'abord, est-ce que Dieu nous demande de tout donner? Dieu, par l'intermédiaire du prophète Michée, avait donné à Israël cette simple règle. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. À première vue, ça semble pas si compliqué que ça. Mais peut-être qu'il faut connaître le chemin que Dieu veut que nous suivions pour pouvoir en juger. Et ce chemin, Jésus nous en parle dans Matthieu 10. Matthieu 10, versets 16 à 22. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant des tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. On vous fera comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Des frères livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus continue sur ce thème jusqu'à la fin du chapitre. Alors quand nous lisons « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », on peut se demander où sont nos chants de victoire. Il y a bien sûr un petit passage du texte qui nous encourage. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de le dire. Les paroles que vous devez prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viennent pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. » Pour le reste, le chemin que Jésus nous indique ne semble pas si facile que ça. Ce chemin n'est triomphant que par son achèvement. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, pouvons-nous chanter avec sérénité « Je te donne tout » ? Nous avons vu que les apôtres étaient déterminés dans leur engagement, mais qu'ils n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Et je pense que nous ne sommes pas plus forts qu'eux, du moins, dans mon cas, c'est la réalité. Cependant, tous ces apôtres n'en sont pas restés là. Thomas n'est plus mentionné dans la Bible après la période des évangiles. Mais selon plusieurs textes anciens, il a quitté Jérusalem après les persécutions relatées dans Actes 8, après la mort d'Étienne, et il est parti prêcher la bonne nouvelle à partir de la Syrie jusqu'en Inde, en passant par la Perse et même en faisant un détour par le Sri Lanka. L'église Syro-Malabar en Inde se considère encore à l'heure actuelle comme l'héritière directe du ministère de Thomas. Et selon certaines sources, Thomas est mort martyr en Inde en l'an 72, percé par une lance dans le dos pendant qu'il priait. Sa tombe se trouve encore aujourd'hui dans la basilique Saint-Thomas à Chennai en Inde. Il a donc tenu son engagement. Jacques, le frère de Jean, il est le seul apôtre dont la mort est mentionnée dans les textes bibliques. Dans Actes 12, on raconte que Hérode lui fit trancher la tête. Il a été également jusqu'au bout de son engagement. Son frère Jean, nous savons tous qu'il a servi le Seigneur jusqu'à un âge avancé et qu'il a écrit un évangile, trois lettres pour édifier les chrétiens, et l'Apocalypse qui termine le Nouveau Testament. Il a été exilé sur l'île de Patmos par l'empereur Domitien. Il a également subi des persécutions, y compris par d'autres chrétiens, comme on peut le lire dans ses lettres, mais il est resté fidèle à son engagement. En ce qui concerne Pierre, grâce au récit des Actes des apôtres et à ses deux lettres du Nouveau Testament, on connaît son ministère dans l'Église et son engagement pour Jésus. Selon la tradition chrétienne, Pierre a été martyrisé à Rome, où il aurait été crucifié, et il a même demandé à être crucifié la tête en bas, se considérant comme indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ. Il est resté lui aussi fidèle à son engagement jusqu'au bout. Alors que s'est-il passé? Comment tous ces hommes ont-ils pu changer? Ces récits nous montrent que malgré toutes leurs bonnes intentions, ils n'avaient pas pu résister aux persécutions, du moins pas aussi longtemps qu'ils pensaient être assez forts pour le faire. Jésus les avait prévenus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », mais il leur avait également promis, dans Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit, vous recevrez une force, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Jésus a tenu sa promesse, il a envoyé le Saint-Esprit, et tout a changé. Thomas, celui qui doutait, est devenu un témoin extraordinaire dans tout le Proche-Orient jusqu'en Inde, où il a donné sa vie pour Jésus. Et il a proclamé le salut de Dieu à des milliers de kilomètres de son pays. Les fugitifs Jacques et Jean n'ont pas hésité à affronter les autorités et les bourreaux avec une grande assurance. Pierre, qui perdait ses moyens devant une simple servante sans agressivité, a osé défier les tribunaux et même aller jusqu'à la croix. Est-ce que nous voulons servir Jésus jusqu'au bout? Probablement que nous le souhaitons tous. Sommes-nous capables de le faire? Probablement pas plus que les apôtres. Nous avons pour l'instant une pleine liberté pour vivre notre foi et nous avons la possibilité de la partager, même si ça devient de moins en moins facile. Est-ce que c'est pour nous une option? Est-ce que le témoignage est réservé à certaines personnes? Jésus a dit, et c'est l'évangile de Matthieu qui nous le rapporte, dans Matthieu 10, 32-33, « Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. » Si nous ne pouvons pas par nos propres forces suivre le chemin étroit vers lequel Dieu nous appelle, c'est peut-être parce que nous ne nous appuyons pas, comme les disciples, sur le Saint-Esprit qui a transformé les incroyants, les lâches et les apostates en héros de la foi. Et l'un des premiers concernés expliquait cela à ses contemporains dans Actes 2, 38 et 39. Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se laisse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous, pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Nous en faisons partie, il me semble. On se rappelle aussi ce que Jésus disait à ses disciples. Là, c'est Jésus qui dit dans Luc 11, verset 3, « Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Cette même assurance, cette même puissance donnée aux apôtres, elle est pleinement disponible et accessible à nous aussi pour faire de nous, petits humains, des héros de la foi. Pas des héros de la chair, des héros de la foi. Pas des géants sur deux, mais des disciples confiants en leur Sauveur et dans la promesse du Saint-Esprit, sûrs de leur salut, sûrs du cadeau du Saint-Esprit. Alors oui, je peux chanter « Je te donne tout », mais par la foi, par la grâce de Dieu, tout en me souvenant que Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups et pas comme des lions au milieu des souris. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes, que tu nous offres. Aide-nous, aide-moi à vivre selon ton esprit et non selon la chair. Aide-moi à m'appuyer sur toi et pas sur mes capacités. Aide-moi à partager ce merveilleux cadeau que tu m'as fait du salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ce sacrifice que tu as accompli à la croix pour que j'aie la vie et pour que je sois témoin pour toi. Merci Seigneur. Amen.